Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode du podcast de Hockey sur demande édition du 24 septembre 2023. Steph, comment ça va?
Pas pire, grosse fin de semaine, mais on est prêt pour des prédictions aujourd'hui, ça va être la fun.
Ben écoute, ça sent de plus en plus le hockey, Stéphane, parce que non seulement le junior majeur du Québec commençait en fin de semaine, mais aussi les matchs pré-saison ont commencé dans la LNH, il y en avait d'ailleurs plusieurs aujourd'hui. Et il y en a certains qui sont diffusés. Là, je pense que ce soir sur Sportsnet, vous pouvez regarder le match entre Calgary et... C'est-tu Vancouver ou Edmonton? Je ne me souviens plus. Je
sais que c'est Calgary des contre, Calgary contre Vancouver.
Comme Vancouver. Donc, vous pouvez déjà commencer à regarder des matchs de hockey devant vos écrans. Et nous, ben, on poursuit notre fameux tour d'horizon là, des quatre divisions. On fait nos prédictions, en fait. Et ce soir, eh bien, on va s'attaquer à la division métropolitaine. Comment ça a été ton classement, Steph?
Quand même, pas pire, on a parlé à pas mal de podcasts. Je suis un peu plus conservateur que toi, je pense, mais moi, ça a quand même bien été, je pense.
Ben écoute, moi, j'ai essayé de... Tu sais, j'ai pas essayé d'aller avec des shots là, qui sont pratiquement impossibles. T'sais, exemple, j'ai pas mis Philadelphie premier, mais j'ai quand même essayé d'y aller un petit peu avec des long shots. Là, puis, tu sais, je pense que j'ai quand même un raisonnement derrière ça. Là. C'est pas uniquement juste des choix juste pour dire qu'on fait des long shots pour le fun. Ça se tient, je pense, mes arguments. Ben, en tout cas, on va voir dans quelques instants si ça se tient ou pas, si tu vas me ramasser ou si les gens dans le chat vont me ramasser aussi pour mes arguments. Mais j'essaie un petit peu d'y aller avec des prédictions un petit peu plus audacieuses. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos prédictions également dans le chat. Je pense que Savanti nous a envoyé ses prédictions via Twitter, Steph, parce que tu avais lancé un peu l'appel aux gens d'envoyer des prédictions là, en message privé sur Twitter. Donc, si
J'en ai une.
Si Savanti se pointe dans le chat ce soir, eh bien, on va regarder avec lui qu'est-ce qu'il a mentionné pour ses prédictions. Sinon, si vous ne les avez pas faites, là, vous n'avez pas envoyé ça en message privé, eh bien, faites-le dans le chat. On va vous lire là, tout au long du podcast ce soir. Évidemment, on risque de faire un peu comme la semaine passée. Si on voit qu'on passe rapidement là, dans le classement et qu'on fait une demi-heure, bon, on va parler de quelques nouvelles là, par la suite là, pour closer ça. Puis vous pouvez poser des questions aussi là, dans le chat. Il n'y a aucun problème avec tout ça. Steph, es-tu prêt?
Yes, let's go.
Position numéro 8. Je pense pas qu'on va vraiment s'ostiner là-dessus. Moi, j'ai mis les Flyers.
Ouais, moi aussi.
Je pense que du côté de Philadelphie, puis Daniel Brière ne s'est pas caché d'ailleurs durant la saison. Sans dire que l'équipe va tanker en malade. Je dis, on est en processus de reconstruction. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous, les séries, là, c'est pas pour cette année. Et Explore qui mentionne dans le chat, les Flyers gagnent la coupe. Merci, bonsoir. Le live est fini. Non, je suis pas tant sûr. Du côté des Flyers, là, ça sera pas les séries cette année. Et pourtant, on regarde l'alignement, c'est pas si mauvais que ça. On n'est pas au stade des Blackhawks de Chicago l'année dernière, où c'était vraiment des joueurs qui remplissaient des chandails pour remplir des chandails. Si on a quand même Farabee, Morgan Frost et Owen Tippett. C'est quand même Tippett qui a eu une belle éclosion l'année dernière. Morgan Frost là, qui aussi a une belle progression. Farabee qui peut mettre des points sur le tableau aussi. Et l'équipe qui pourrait miser sur le retour de Sean Couturier et Cam Atkinson, donc deux vétérans là, qui pourraient être de retour, là, eux qui avaient eu des blessures l'an dernier. Travis Konecny qui n'est pas mauvais non plus. Évidemment, la quatrième ligne, ben, on a Delaurier, Paling et Holloway. Donc, tu sais, on a quand même une équipe potable à l'attaque. Défensivement, c'est sûr qu'on s'est départi du meilleur défenseur en Ivan Provorov. On l'a envoyé du côté des Blue Jackets. Sinon, on a ajouté Mark Stahl en termes de vétéran. Sinon, ben, on mise encore sur le top 3 de Sanheim, Ristolainen et Cam York. Et on est allé chercher également Sean Walker. Des Kings. Donc, c'est pas mal ça du côté des Flyers. Devant le filet, bien évidemment, on a toujours le fameux, la fameuse énigme Carter Hart. Quel Carter Hart qui va se pointer cette année? Est-ce que c'est le gardien là, qui est capable de faire les arrêts au bon moment ou si c'est lui qui a tendance à s'écrouler rapidement? Eh bien, ça, seul l'avenir nous le dira. Et Savanti qui est dans le chat. Donc, lorsqu'on aura terminé nos prédictions, on va y aller avec les tiennes. Savanti, tu les avais envoyées là, sur Merci. Twitter à Stéphane. Donc, on va regarder ça là. Lorsqu'on aura fini notre classement. Je pense que je vais pas mal tout dire du côté des Flyers. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais ajouter là, à ce niveau-là du côté de
Philadelphie. Je pense qu'on a ajouté quelques joueurs avec Ryan Peeling, Garnett Hathaway, Mark Stahl, Sean Walker et Cole Peterson comme gardien. Je pense que c'est, comme tu dis, on a quand même perdu plus qu'on a gagné, je pense, au niveau talent. Je pense à une reconstruction. Mathieu Miskov, on va voir comment ça va aller dans les prochaines années. Là, comme tu l'avais collé la semaine passée, il joue pour une nouvelle organisation. Donc, on ne joue pas avec le Scott Saint-Pétersbourg. Donc, ça va lui donner plus de temps de jeu. Mais c'est un processus qui va être long du côté de Daniel Brière avec les Flyers. Et comme tu dis, il y a trop de si. Un petit peu comme le Canadien la semaine passée. Est-ce que Sean Couturier et Callum Kitson seront présents? Est-ce que Ryan Ellis sera présent cette année? On ne sait pas encore. C'est des game team decision qu'on appelle avec le fameux daily face-off, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. On va essayer de finir probablement pour avoir des choix de première ronde assez élevés pour les deux prochaines années.
Moi, je pense que Ryan Ellis, d'après moi, il ne reviendra pas. Là. D'après moi, c'est plate. Là, un défenseur aussi talentueux que ça, mais malheureusement, ça ne semble pas s'améliorer dans son cas. Et lorsqu'on regarde du côté du portrait des Flyers, ben, du côté de Philadelphie, on va tenter de liquider certains joueurs à date des transactions. T'sais, on a un Sean Walker, justement, qui est joueur autonome à la fin de la saison. Mark Stahl, un bon vétéran qui, sur une équipe, va vouloir payer un choix repêchage à la date limite pour aller chercher ce vétéran-là. Il y a Nick Seeler aussi là, qui va tester le marché des joueurs autonomes à la fin de la saison. Donc, on n'a pas des gros noms, mais on va continuer à sortir là, quelques joueurs pour rentrer des jeunes là, dans les prochaines années. Donc, les Flyers, là, je pense que c'est pas mal ça. 8e rang. Et ça va juste être bon pour eux là, pour les prochaines années. Évidemment, comme tu as dit, ils sont allés chercher Michkov l'année passée. Ils devraient avoir un autre choix, là, top 3, là, à moins que la loterie viendrait là, un peu gâcher leur chance, si on veut. Mais ils devraient avoir encore un choix assez haut et ajouter du talent là, au fur et à mesure.
Exact. Ben d'accord avec ça.
Numéro 7.
Number 7. Premier,
parce que moi, c'est là que j'ai une petite long shot là, pour mon numéro.
Ah, tabarouette. Ouais. Pas mis Devils en 7e encore cette année.
Non. J'ai appris de mes erreurs.
Pour se mentir. Écoute, moi, ça va être plate, mais c'est les Capitals de Washington en 7e.
Ouh.
Ouais. Ouais. Moi, je vais vraiment avec ce côté-là. Je sais que l'année passée, je ne les ai pas classés haut non plus, mais je vais vraiment pour cette année encore. Encore le bon vieux top 6. Les bons vieux joueurs qu'on a. Je pense que d'avoir Anthony Manta sur un premier trio, c'est pas de gloire non plus, même si j'adore le joueur et je trouve qu'il fait bien. Mais si je me fie au daily face-off comme toi là, un petit peu, là, je pense que ça va être difficile pour Washington. Puis quand j'ai fait un petit peu mes screenings partout dans les sites web, autant anglais que francophones, les Devils, pas les Devils, mais les Capitals sont toujours loin. Écoute, on a ajouté quand même des joueurs. Max Pacioretty va tout toute la saison, on ne sait pas. Matthew Phillips, Joel Edmondson, ça va vraiment quelque chose qui va marcher pour à long terme, on ne sait pas. Évidemment, on a changé d'entraîneur avec Spencer Carberry. Donc, il va voir de ce côté-là aussi. Et on a quand même perdu Connor Sherry, on a perdu Craig Smith, on a perdu Connor Brown, Gabriel Lars Carson, Carl Hagelin qui a pris sa retraite, puis là, Peter Laviolette qui est parti aussi. Donc, de mon côté, je pense que c'est vraiment vers la fin. On s'en va vers la fin. Oui, on a des bons jeunes qui s'en viennent. Les Kutnesov sont là aussi. Rasmus Dahlin va être là aussi. Mais je pense qu'on est vraiment rendu dans le dernier sort du côté des Capitals.
Moi, mon numéro 7, c'est une équipe qui a fait les séries la saison dernière. Et pour vrai, ils n'ont rien fait durant la saison morte. Puis je pense pas que ça va bien se traduire du côté des Islanders de New York. Pour vrai, je regarde cette équipe-là et sérieux, il se passe rien. Je regarde l'alignement, puis il n'y a rien qui m'excite dans cet alignement-là. La seule chose que les Islanders ont de le fun, c'est leur duo de gardien de but sur Sorokin et Varlamov, qui est très bon. C'est une des équipes qui a accordé le moins de buts l'an dernier. Mais ça a été aussi une des pires équipes à l'attaque, top 10 au niveau de la pire attaque, puis ils n'ont rien ajouté. C'est sûr que oui, ils vont compter sur un Bo Horvat durant toute la saison, mais on a vu que Bo Horvat avec les Islanders, ça n'a pas fonctionné tant que ça. On s'attendait un petit peu plus, puis c'était prévisible aussi. On passe d'une équipe comme les Canucks, qui est un petit peu plus offensive, à une équipe comme les Islanders, qui sont plates à avoir joué, puis c'est hyper défensif. C'était sûr que les chiffres de Bo Horvat, là, allaient pas pour les chiffres qu'il avait avec les Canucks, ça n'allait pas se transposer avec les Islanders. Tu regardes le top 6 présentement, ben c'est les mêmes vieux noms qui reviennent. On a les Matthew Barzal, on a les Bo Horvat, Carl Palmieri, Brock Nelson. Puis tu sais, il n'y a pas tant de talent au niveau de l'attaque qui s'en vient. C'est Atu Ratti, est-ce qu'il va se tailler un poste? Pas tant sûr. Défensivement, par exemple, évidemment, c'est une équipe qui est très bonne là, en défense. Là, on a justement les deux gardiens de but là, qui font le travail. On a Ryan Pulock, Adam Perlett, qui est un bon duo en défensive. On a Noah Dobson aussi qui fait bien. Mais ils n'ont pas amélioré leur attaque, qui est leur point faible. Les autres équipes dans la division se sont améliorées. Moi, pour voir les Islanders, je ne les vois pas très haut cette année. C'est un petit peu, peut-être, une demi-long shot dans mon cas, parce qu'évidemment, ils ont fait les séries l'an dernier quand même. Mais je pense que cette année, là, ils vont peut-être s'écouler un petit peu plus là, en raison du manque d'attaque.
Ah, je suis d'accord avec ça. Puis moi, ils sont mis en 6 pour rien. C'était vraiment pas très loin de ta prédiction à toi de ton côté en 7e. Écoute, moi, je pense qu'on n'a pas fait grand-chose dans notre saison, mais en plus, on n'a pas rajouté de punch offensif. On a perdu Josh Bailey, Zach Parise. On aurait perdu Waterspoon puis Bardrow, puis on a juste rajouté Julien Gauthier. Donc, je dis juste, pas pour manquer de respect à Julien Gauthier, mais je pense pas que ça va être un game changer. Et la seule chose que j'aime pas de cette équipe-là, c'est qu'on est très bon défensivement. On a quand même une équipe défensive solide qui sont bons pour bloquer les rondelles. On a probablement le meilleur du autre gardien de but aussi dans l'Est. Samson, on l'a dit, tu l'as dit toi avec. Mais on n'a pas de punch offensif. Puis c'est vraiment dommage parce que on met beaucoup d'emphase sur Mathieu Barzal, je pense, puis Bo Horvat. Puis je pense que Mathieu Barzal en a trop sur les épaules. Et j'ai hâte de voir comment que les autres vont réagir en bas de lui. Ça pourrait être une long shot. Probablement le meilleur quatrième trio aussi dans la division, même dans l'Est. Je te dirais peut-être pas dans l'Ouest, mais dans l'Est. Mais il faut que ce quatrième trio-là, cette année, fonctionne. Et il faut que ce quatrième trio-là, cette année, marque des points, ce qui ne s'est pas passé l'année passée. Donc oui, c'est bon, on est difficile à jouer contre, mais il faut faire des buts. Et les Islanders ne sont pas reconnus pour être une équipe offensive, jamais. Et là, je pense que cette année, va savoir leur faire mal. Moi, c'est pour ça que j'ai classé sixième.
Mais écoute, Stéphane, je t'avais dit avant qu'on entre en recording que j'avais essayé d'épicer un petit peu les choses, mais finalement, ouais, on a sensiblement la même chose. Donc, on voit quand même les mêmes affaires parce que moi, j'ai mis les Caps tout d'après. Ouais. Donc, on a juste flippé. Ça veut dire que les deux, on voit quand même les Blue Jackets faire un très bon, ça se dit mal, là, mais ils vont climber un petit peu plus. Donc, finalement, j'ai pas tant spicé ça, mes trucs. Moi, évidemment, les Capitals, je les ai mis sixième. Puis la seule raison pour laquelle je les ai mis à l'avant les Islanders, c'est justement ils ont une meilleure attaque défensive qui est quand même respectable. Mais le duo devant le filet, Kuemper, Charlie Lindgren, là, c'est pas un duo que tu peux aller loin un duo comme ça. Surtout Kuemper, c'est pas le gardien qui reste le plus souvent en santé non plus. Et c'est Lindgren qui est en site back et ça. Pour vrai, je pense que ça aurait peut-être pris un gardien là, numéro 2 pour mieux seconder un gars comme Kuemper. C'est rien enlevé à Charlie Lindgren, mais à long terme, c'est pas une solution du côté de Washington. Donc, du côté des Caps, ça commence à vieillir. La porte commence à se fermer tranquillement. La bonne nouvelle pour eux, ils ont quand même des jeunes qui poussent. Là, Connor McMichael devrait cogner à la porte là, cette année. Hendrix Lapierre devrait s'en venir également éventuellement. Mais c'est quand même une équipe qui est plus vieillissante que le talent qui s'en vient. Donc,
on peut se le dire, là, si l'avantage numérique de cette équipe-là ne fonctionne pas, il n'y a rien qui se passe. Pas l'oublier ça avec. Tu sais, John Carlson fait ses points-là. Tom Wilson fait ses points-là. TJ aussi fait ses points-là. Ovechkin fait ses points-là. Donc, c'est une équipe qui est vieillissante. Tu le dis, Max, c'est bon. Je pense qu'on a quand même des bons joueurs dans cette équipe-là. Est-ce qu'une classe Backstrom va revenir à 100%? On ne sait jamais. Donc, c'est vieillissant. C'est difficile. Ovechkin a-tu la tête à ça présentement aussi? Je pense que il veut battre le record de Wayne Gretzky. Puis je souhaite qu'il le fasse. On le souhaite tous. Mais est-ce que présentement, on joue au hockey du côté d'Ovechkin juste pour ça? Je pense que oui. Et ça a apparu un peu la saison passée, je pense.
Ce qui nous amène à la position numéro 5, les Blue Jackets de Columbus. Donc, est-ce que c'est fini le temps où les Jackets c'était, je dirais pas la risée, mais une équipe de fond de classement année après année? Faut pas oublier que l'année passée, on parle beaucoup du Canadien là, qui ont eu des blessures énormément, mais les Jackets en ont eu également. Je pense dans la première semaine, ils ont perdu comme Laine, Werenski, puis il y en avait un autre aussi, me semble, dans les premières semaines d'activité. Et c'est des absences à long terme quand même, donc ça n'a vraiment pas aidé. Et du côté des Jackets, je pense que, justement, du côté derrière moi, Kekalainen, là, on est un petit peu tanné d'être dans le bas fond du classement. Donc, on était très actifs. On est allé chercher, bon, j'avais dit tantôt, Ivan Provorov des Flyers. On est allé également chercher Damon Severson des Devils. Eric Robertson, ça, j'étais un petit peu moins sûr de cet ajout-là.
C'est pas de l'adepte défensivement, là. C'est un gros bonhomme difficile à bosser. Puis c'est ton sixième défenseur. C'est pas trop
grave. C'est juste le contrat qu'on lui a donné qui
fait
d'un dent.
Quand t'as pas d'argent.
Ah, c'est sûr. Mais faut pas oublier aussi Alexandre Texier qui était allé en Europe là, l'année dernière. Là, je pense qu'il avait des problèmes personnels. Donc il avait quitté les Jackets. Il va revenir cette année. Fantilli, ça va être une grosse acquisition. Tu sais, on parle beaucoup de Connor Bedard avec les Blackhawks qui est le favori pour le Calder. Mais il ne faut pas dormir sur un gars comme Fantilli non plus. Si Laine peut rester en santé, on a Gaudreau qui est là, Ken Johnson qui prend de l'expérience aussi, Emil Benstrom, Rose Levitch et Marchenko comme troisième trio, c'est quand même pas si pire. Non, du côté des Jackets, ça s'en vient. Mon gros point d'interrogation, par contre, est-ce que Elvis peut enfin offrir des performances potables soir après soir? Moi, c'est là ma bémol. Mais je pense quand même que lorsque je regarde les alignements des Blue Jackets, des Capitals et des Islanders, je préfère celui-là des Blue Jackets, et c'est pour ça que je les mets cinquième de la division. Mais le gros bémol, c'est devant le filet. Faut que Elvis là, fasse les arrêts. Parce que si il est encore le gardien inconstant qu'il a été dans les dernières années, Columbus va finir encore 6-7e de leur division.
Là. Ouais, puis je suis d'accord. Puis on met beaucoup d'espoir sur Elvis. T'sais, malheureusement, c'est touché de dire ça, mais je pense que les événements qui se sont passés avec l'ancien gardien de but pendant la pandémie n'a pas aidé. Puis j'y souhaite, c'est un bon gardien de but. Je pense que c'est une bonne personne aussi. Mais t'as raison, t'as tellement raison. Parce que si, du côté des Blue Jackets, ce qui nous manque depuis quelques années, c'est d'avoir la possession de rondelle. On n'en a pas de possession de rondelle du côté de Columbus. Et là, je pense que cette année, c'est ça la différence qu'on va avoir avec un deuxième centre comme Fantilli. Donc, on va donner moins de responsabilité à Roslovic, qui, je pense, en avait un petit peu trop ses épaules l'année passée. Puis on va tomber avec une ligne de centre qui est pas mal plus fun avec Boone Jenner comme premier centre. Fantilli deuxième, Roslovic troisième, puis Curaly quatrième. Donc quand même une grosse quatrième ligne aussi avec Robinson, Curaly, Danforth. Ça, je pense que ça peut faire quand même des dommages aussi, mais on a un solide top 6. Puis quand je dis solide top 6, on vient de rajouter un Ken Johnson sur la première ligne. Alexandre Tessy, s'il peut venir en forme, ça va faire du bien. Puis enfin, un Québécois dans un top 6, on va le prendre. Donc,
en fait, c'est un Français, mais un c'est français. Proche.
Mais c'est proche. Proche. Affaire. C'est un cousin, dans le fond, c'est un affaire. Dans le fond, ça va aider. Puis, tu sais, quand tu dis qu'on met beaucoup de pression sur Elvis, on en met tellement parce que malheureusement, Daniel n'est pas prêt. Daniel Tarasov n'est pas prêt à être premier gardien de but et prendre plus que 30-35 matchs par année. Donc, oui, ça passe par Elvis. Et je souhaite du bien. Moi, je pense que les Blue Jackets, ça a été une circonstance mauvaise. Je pense que Johnny Gaudreau est meilleur que ça. Je pense qu'on a plus de depth aussi au niveau offensif, mais il va falloir que tout le monde joue ensemble. Et l'addition la plus importante de l'entre-saison, c'était Mike Babcock, mais il n'a pas fait un match. Donc, dans le fond, c'est maintenant
ben, je pense qu'on a évité un méchant problème. Exactement.
Donc, je pense que là, le fait que Mike Babcock n'est pas là, donc c'est quand même trois coachs en même pas deux mois, on s'entend. Mais je pense que c'est une bonne affaire pour les Blue Jackets. Puis, j'ai bien l'impression qu'on va être plus à l'aise offensivement. Laisser les joueurs plus jouer dans un système qui est plus le fun. Et on a des joueurs qui aiment lancer au filet. Patrick Laine, s'il n'y a pas de lancer au filet dans une rencontre, il ne scorera pas de but. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un punch offensif du côté de Blue Jackets. Et tu sais, mentez-moi pas, là, entre la 4 et la 8, ça peut être très serré aussi. Ce n'est pas une division qui est forte. Moi, j'ai classé seulement 3 équipes, peut-être 4 en série, si tout va bien. Mais c'est pas une division, d'après moi, qui va être forte. D'après moi, c'est la division la moins forte de la NHL cette année.
Ouais, moi, je pense. Puis, c'est drôle parce que pas plus tard que l'an dernier, on disait que c'était la division la plus boostée. Puis ouais. Je pense que cette année, ça va être 5 équipes d'Atlantique puis 3 là, de la métropolitaine. Exact. Notre ami Philippe qui est dans le chat présentement. Bonsoir de la Floride, les boys. Je vais te donner mon thumbs up. Je vous souhaite un bon show. Et il ajoute c'est aussi, mieux. Malheureusement, je suis pas mal plus vieux que vous, donc je vais me coucher pour être capable de me lever à 5h du matin. Ben, merci quand même de ton passage. Samantie, est-ce que j'avais pas vu passer Samantie, mais il mentionne que du côté des cartes, la situation de Backstrom est incertaine, effectivement. Donc, voilà pour les Blue Jackets. Ce qui nous amène maintenant à l'équipe numéro 4. Est-ce que tu as mis les pingouins, Steph?
Oui.
Bon, finalement, le classement se ressemble beaucoup trop.
Et on commence à se connaître un peu trop.
Salutations à Joël aussi, Couturier, qui est dans le chat du podcast. Donc, merci d'être là pour le pod. Bon, les pingouins.
C'est la grosse année, moi, je pense que c'est là que ça casse ou ça passe.
Ah, je ne sais pas, je regarde les pingouins présentement. La ligne de centre, elle va être excellente. Pour vrai, avec l'addition de Lars Eller, troisième centre, ça va être excellent. En plus, on a le luxe de tasser Jeff Carter puis le mettre à l'aile à droite.
Un troisième trio en plus, ça va être bon. Ça.
Le troisième trio. Évidemment, l'ajout d'Eric Karlsson. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec un Christopher Letang, surtout pour l'avantage numérique.
Je ne jouerai pas avec, hein?
Je ne penserais pas, non. Moi, je pense qu'ils vont pivoter chacun leur unité.
Exactement. Je pense que c'est ce qui va être le mieux, je pense. On va y aller avec un 1-2 punch sur deux paires d'avance. Je te laisse aller. Excuse-moi.
Ouais, pas trop, mais c'est les ailes le problème. Je regarde là, tu sais, évidemment, je fais encore avec le site de Daily Faceoff. Riley Smith, Rickard Rakell, Alex Nylander et Brian Ross, c'est tes alliés de top 6. Là, c'est sûr qu'on n'a pas Genzel avec l'équipe, là, il est blessé actuellement, mais n'empêche que les alliés, ça vole pas, malheureusement. Puis tu regardes dans le bottom 6, ben, on a Drew O'Connor, Jeff Carter, ça va être bon, Mathieu Nieto puis Rem Pitlick. Fait que tu sais, c'est. Évidemment, c'est dur de parier contre les Pingouins quand tu as Crosby et Malkin dans la formation. Tant que ces deux-là vont être là, l'équipe va quand même être compétitive. Puis, là, justement, avec l'absence de compétition dans cette division-là, on parlait des. Bon, les Jackets, oui, j'aime beaucoup les Jackets, sont en progression, mais je ne suis pas encore prêt à déplacer en avant des Pingouins. Bon, Washington, je pense que c'est la pente descendante qui commence pour eux. Évidemment, les Flyers et les Islanders, moi, je ne les vois pas au même niveau que les Pingouins. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça qui vont les sauver un peu.
Ouais, peut-être.
Mais est-ce que ça va être suffisant pour faire les séries? Parce que là, présentement, moi, plutôt, on les met quatrième. Puis moi, pour ma part, je mets cinq équipes de l'Atlantique. Donc, si c'est le cas, ben, les Pingouins manqueraient les séries quand même cette année. Et il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont ajouté Nedeljkovic devant le filet pour seconder Tristan Jarry. Évidemment, on avait échangé Casey DeSmith aux Canadiens dans la transaction qui a fait justement passer Carlson avec les Pingouins. Ouais. Tristan Jarry, ben, c'est une boîte à surprise. Écoute, soit qu'il peut être hyper dominant, soit qu'il peut laisser passer des ballons de plage. Fait que, c'est lequel qu'on va avoir là, cette année, on verra bien. Mais il a prouvé qu'il est capable de faire la job, par contre. Donc, c'est quand même un gardien là, qui peut aller chercher des victoires, mais on ne sait jamais là, quand il peut s'écrouler. Non, je pense que les Pingouins, comme tu as mentionné, ça va être une année que ça passe ou ça casse. Est-ce qu'un gars comme Samuel Poulin peut se tailler une place aussi éventuellement? On verra bien. C'est pas mal un des seuls top prospects d'équipe qui pourrait faire l'équipe là, cette année. Là, ça ne cogne pas beaucoup à la porte, disons, du côté des espoirs, là, du côté des Pingouins, évidemment, en échangeant tout le temps nos choix de première ronde et nos espoirs déjà repêchés pour aller chercher du court terme. Ben, ça donne ce qu'on voit présentement.
Mm-hmm.
Ça donne un alignement qui est dégarni un peu là, parce qu'on n'a rien qui cogne à la porte présentement.
Faut pas oublier non plus que les Pingouins, c'est une équipe qui est très, très forte à domicile habituellement. L'année passée, on a quand même des joueurs qui n'ont pas joué toute la saison. Je pense que Crosby a manqué 7-8 matchs du côté de Malkin, presque une vingtaine de matchs. Brian Ross était blessé aussi. On parle du côté de encore une fois, qui est blessé, c'est Quenzo. Moi, ce que je dis, c'est comme toi, on n'a pas des ailes super fortes. Et je pense que l'aile gauche est encore le plus faible que l'aile droite. Je pense qu'à droite, on a plus de depth un petit peu. Mais on a du vieillissant. Jeff Carter est vraiment rendu vieux, je pense, avec National. Est-ce que Rem Pitlick va apporter sa vitesse et sa fougue? Peut-être. Mais avec trois équipes dans cette division-là puis cinq dans l'autre, pour moi, les Pingouins sont quatrième. Et sais-tu quoi? Ce que j'aime avec les Pingouins, c'est que c'est jamais fini. Ça peut se passer par la défensive cette année. Je pense que Carlson et Letang vont prendre beaucoup de temps de jeu, ce qui va en laisser beaucoup moins à Ruedel, qui va probablement jouer pas mal moins du côté droit dans la défensive. Et attention si cette équipe-là va en attaque à 5. Donc, le power play va être destructeur, surtout qu'il y a Guzzle qui va revenir éventuellement. Et là, on vient d'apporter, quand tu dis avec Lars Eller, un côté défensif en désavantage numérique. Alors, Lars Eller est quand même un spécialiste pour ça. Il n'a pas gagné Coupe Stanley pour rien avec le Washington. Donc, oui, on va chercher un petit peu plus du côté de Washington. Du côté des Pingouins, je n'haïs pas ce qui se passe de ce côté-là cette année. Mais on a fait le ménage, mais on a rajouté beaucoup de monde. Tu l'as dit tantôt, là, Jason Zucker est parti, Granlund, Petrie, Dumoulin, Ruta, Hennon, Casey DeSmith, Peeling, Archibald, puis Ron Extall comme GM. Bye-bye. Et Carl Dubas a compris le message en arrivant. Je pense que la discussion avec Crosby, Le Temps et Malkin a été, garde, nous, on a encore 3 ans, arrange pour qu'on gagne. Et les additions sont de taille, il ne faut pas l'oublier. Là. Il reste à voir si Ryan Graves connaîtra une bonne saison. L'an passé, avec les Devils, il n'a pas connu vraiment une bonne saison. Il reste à voir si ça va marcher cette année. Et on a apporté la depth. En fait, Carl Dubas a ramené la depth que Toronto avait un petit peu avec lui au niveau du 3e-4e trio. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais.
Mais ça, Ryan Graves, c'est bon que tu le mentionnes parce que, évidemment, avec les Devils, c'était peut-être un petit peu plus difficile, mais avec les Avalanches, ça avait été excellent. Là, il va avoir un gros rôle cette année avec les Pingouins, donc peut-être que c'est ce qu'il avait besoin pour rebondir.
Ouais, et puis je veux que Christopher Le Temps, ça va t'aider. T'sais, excuse-moi de couper, mais tu joues avec Christopher Le Temps. En tout cas, selon Daily Faceoff, mais qui joue avec Le Temps ou avec Carlson, c'est un joueur qui peut être aussi bon défensivement qu'offensivement. Une bonne première passe, un bon lancer aussi. Donc, si les gars l'utilisent à leur juste valeur, ils pourraient quand même surprendre sur une deuxième paire d'avantages numériques aussi. Là. Daily Faceoff met Pierre-Olivier Joseph comme défenseur sur une deuxième paire d'avantages numériques. D'après moi, c'est un Grave qui va là.
Puis sinon, ben, faut pas oublier aussi que chez les espoirs, on a Ty Smith aussi qui pourrait cogner à la porte en défensive là, éventuellement. Là, il avait eu un court séjour avec les Pingouins l'année dernière en 9 matchs, quand même 4 points. Pour un défenseur, c'est pas mauvais du tout. Il a eu 24 en 39 là, dans la Ligue américaine. Donc, c'est peut-être un qui pourrait cogner à la porte du côté des espoirs en défensive, mais c'est à l'attaque qu'il n'y en a pas tant que ça. Parce que Alex Nylander, c'est enfin son moment. Ça fait longtemps qu'on l'attend.
Ça fait longtemps qu'on l'attend.
Présentement, il serait sur une deuxième paire. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un ou deux buts là, dans le match hors concours avec les Pingouins. Évidemment, il faut en prendre et en laisser. C'est un match préparatoire, mais semble quand même connaître un bon camp là, du côté des Pingouins. Mais on verra bien du côté des Pingouins. Mais moi, je pense qu'il va en manquer un petit peu là, du côté de Pittsburgh. Là.
une chose qui est sûre, là, c'est qu'il faut que les Pingouins, à partir de cette année, gardent leur choix premier rond pour les prochaines années. Il faut commencer à entourer l'os qui va se perdre dans 2-3 ans. Et honnêtement, si Kadubas est intelligent, va rajouter des joueurs qui sont prêts ou peut-être des joueurs de 3e, 4e trio pour venir aider les deux premiers centres. Mais si on est capable de tirer un coup de circuit, je pense, avec un joueur, peut-être pas vedette, mais un joueur qui décide de finir sa carrière ou d'avoir une bonne chance sur le top 6, on va le faire cette année. Mais ça va être intéressant de voir, après le match des étoiles, rendu ou la semaine des échanges ou le mois des échanges, qu'est-ce qu'on va faire du côté des Pingouins, où est-ce qu'on va être positionné. Parce qu'après ça, le reste va se juger là. Tu sais, l'année passée, c'est 40 victoires. On a perdu les deux derniers matchs, puis on s'est fait éliminer là, dans le fond, par les Islanders. Donc, ça a passé proche quand même de faire les séries l'année passée. Ça n'a pas été comme les Capitals qui étaient 7 matchs en arrière. Là.
Et là, la question moi, que je me pose du côté des Pingouins, c'est sûr qu'on n'a pas tant de cap space que ça du côté de Pittsburgh. Mais est-ce que on pourrait cogner à la porte d'un certain Patrick Kane au mois de novembre quand il va être prêt à revenir au jeu? Si le gars est prêt à signer pour pas trop cher pour essayer de gagner une dernière coupe, tu mets Patrick Kane avec un Crosby ou un Malkin, oui, ça commence à regarder pas pire. Mais le problème du côté de Pittsburgh, c'est qu'il faudrait faire du cap space. Mais sinon, j'ai hâte de voir ce dossier-là qui va gagner de lui Patrick Kane. C'est sûr qu'on parle beaucoup des Sabres vu que c'est pas mal son coin natal.
Sa ville.
Mais du côté de Pittsburgh, si on peut se faire un peu de place à la masse salariale, de peu importe la façon que ce soit, je pense que ça pourrait être une destination assez intéressante là, pour le fameux numéro 88.
D'accord avec toi.
On est maintenant rendu dans le top 3. On a les mêmes équipes. Reste à voir maintenant si elles sont dans le même ordre. Troisième rang, moi j'ai mis les Rangers. Je pense que du côté de New York, on va réussir à, encore une fois, se hisser dans le top 3. Encore une fois, il y a des si qui m'énervent un petit peu dans cette équipe-là. C'est tout à les mêmes. Lafrenière, Capocacco, Skeff, on peut atteindre la prochaine étape. Ça fait au moins depuis l'année passée qu'on attend ça, si c'est pas 2 ans. Là, il faudrait amener qu'il y ait quand même pas pire progression. Là. C'est quand même des hauts choix. Mais n'empêche que, bon, tu as déjà Zibanejad, tu as déjà Kreider, Panarin, je veux dire, ça passe pas par eux, mais c'est la fameuse profondeur du côté des Rangers. Est-ce que la profondeur peut amener de l'offensive un peu? Présentement, regarde le top 10, on a ajouté Blake Wheeler, ça peut aider aussi. Sinon, on a Kreider, Zibanejad, Lafrenière, Panarin, Chytil et Wheeler comme top 6. Ensuite, Goudreau, Trocheck, Capocacco comme troisième trio, Tyler Pitlick, Nick Bonino et Jimmy Vesey. Donc, quand même un peu de profondeur à l'attaque. En défensive, ben, ça n'a jamais été vraiment le problème du côté des Rangers. On a Adam Fox, Kendrick Miller, Jacob Trouba, Ryan Lindgren, Gustafsson puis Brandon Schneider comme top 6. Et devant le filet, ben, on a Chesterkin et Jonathan Quick qui sera avec les Rangers pour seconder notre cher ami Chesterkin. Donc, devant le filet, quand même un bon duo. Un jeune gardien qui fait ses preuves depuis quelques années avec un bon vétéran comme Jonathan Quick. Donc, du côté des Rangers, je pense que les séries, je ne veux pas dire que c'est un lock, mais disons qu'ils sont très bien placés là, pour jouer ce printemps.
Moi, j'ai mis les Hurricanes en 3.
Oh!
Oui, monsieur. J'ai mis les Hurricanes en 3 pour deux raisons. Je pense qu'on n'a rien ajouté cet été qui était convaincant pour moi pour se rendre
plus loin. T'es pas vendu sur Michael Bunting?
Vraiment pas. Et pour surtout qu'il va essayer de le mettre sur le premier trio, ce que je pense pas que c'est un joueur de premier trio. Brandon Lemieux va vraiment apporter ce qu'il a apporté, à part apporter des mouches à quelque part qu'il n'y en a pas. Donc j'adore Brandon, c'est un batailleur, c'est un gars qui se bat pour la rondelle, a joué avec les Kings, je pense, l'année passée. Mais c'est pas un joueur qui va t'amener le respect. Tony D'Angelo, lequel qu'on va avoir? Celui qui ramasse du monde avec des portefeuilles ou celui qui est bon sur sa patinoire. Caleb Jones, je suis pas vendu. Dimitri Orlov, c'est un bon pick. Mais à 7,75 millions, est-ce que ça va vraiment faire une différence? Puis on a quand même perdu des bons joueurs. Même si on les aimait pas. Paul Stastny, Derek Stepan, Gustis Bear, puis Max Pacioretty qui a à peine joué, je sais bien. Mais moi, je pense qu'on a perdu peut-être autant ou plus du côté des Hurricanes qu'on a gagné. De mon côté, je suis pas fervent non plus du côté défensif de cette équipe-là. Oui, Brett Burns, il est bien le fun, puis il est bien beau, il fait bien les points, mais est-ce que tu veux t'amener à la Coupe Stanley, il l'a jamais fait encore. Et je pense qu'on a une ligne de centre qui est correcte du côté des Hurricanes, mais on n'a pas apporté rien sur l'os. Michael Bunting, pour moi, c'est pas le dieu tout béni. Seth Jarvis a bien fait l'année passée, mais là, va se rencontrer sur un premier trio, je suis pas sûr que ça va faire la job. Et Kotkaniemi avec Svechnikov et Nekas, est-ce que ça va pogner? Mon problème que j'ai, c'est que quand ça commence à brasser, ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas oublier que dans l'Est, donc la majorité de leurs rencontres va se faire contre des équipes qui vont être beaucoup plus robustes, beaucoup plus mieux formées, beaucoup plus fortes physiquement. Et c'est là que les Hurricanes se perdent habituellement, c'est quand ça devient physique. Mais ça n'empêche pas que cette équipe-là a un très bon one-two punch. Bien dirigé, il ne faut pas l'oublier avec... avec Rob Brind'Amour. Et juste à cause de ça, si cette équipe-là pourrait avoir le cœur de cet entraîneur-là à eux au hockey, ça serait bien différent. Mais entre la 1, la 2 et la 3, moi, je ne pouvais pas mettre les Hurricanes en haut des autres. Juste parce que l'année passée, ils m'ont laissé ce monde en petit. Puis c'est pas une équipe qui est le bunch of jerks, c'est quand même cool. C'est une équipe qui est le fun d'avoir joué. Mais je pense pas qu'on a été allé de l'avant cet été avec cette équipe-là. Surtout ce qu'on avait besoin d'aller de l'avant. Il nous manquait peut-être un ou deux choses pour peut-être se rendre aux grands honneurs, puis on ne l'a pas fait.
Moi, je pense que du côté des Hurricanes, moi, c'est eux que j'ai mis au deuxième rang. Je pense que le plus gros ajout, c'est le retour de Svechnikov qui n'a pas joué de l'année passée. Juste ça, je pense que ça va faire une grosse différence à l'attaque. Ça va peut-être enlever un petit peu plus de poids sur les épaules que Nikus pouvait avoir ou Teravainen et Jarvis. Donc, juste ça, je pense que c'est un ajout majeur là, du côté des Canes. Bunting, évidemment, est-ce que c'est parce qu'il a joué à Toronto que ça fonctionnait? Parce qu'il joue avec Matthews, Nylander, Tavares, Marner, peu importe. Est-ce que ça va être la même chose du côté des Hurricanes? Moi non plus, je ne suis pas tant convaincu de cette signature-là. Par contre, j'aime beaucoup l'ajout de Orlov. Je pense que c'est un ajout qui est un peu sous-estimé. Tu as déjà des Brady Shea, des Brett Pesci, des Jacob Slavin qui sont plus défensifs. Orlov est également défensif, mais peut amener une certaine touche d'attaque aussi. Évidemment, on a Brett Burns là, qui est capable de jouer en avantage numérique. D'Angelo, ben, ça passe ou ça casse. Là, c'est... Côté talent, il est là. Côté attitude, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il peut mettre ses problèmes de côté puis se concentrer sur le hockey? On va le souhaiter, mais sur papier, c'est une bonne addition pour le côté hockey, mais est-ce qu'il va venir pourrir ton vestiaire? Ben là, ça, c'est une autre histoire. Moi, je pense que la profondeur du côté des Hurricanes à l'attaque, je pense que je la préfère à celle des Rangers. C'est pour ça que j'ai mis les Rangers en avant. C'est sûr que c'est deux équipes complètement différentes au niveau du style, là. Je regarde la défensive. Est-ce que je préfère celle des Hurricanes qui est plus justement défensive, plus fiable, mais qui apporte moins d'offensive, ou si j'aime mieux les défenseurs qui sont allés lousses là, du côté des Rangers, comme les Adam Fox, les Trouba et de ce monde? Encore là, c'est, je pense, une question de préférence là, à ce niveau-là. Devant le filet, on va miser sur un duo de Anderson et de Renta encore une fois. Ça, c'est peut-être là où je suis un peu moins vendu, mais je pense qu'overall, c'est dur de parier contre une équipe qui est dirigée par Rob Brind'Amour. Cette équipe-là est tellement bien rodée depuis quelques années. Malheureusement, elle manque toujours de gaz rendu en série. Mm-hmm. Mais en saison régulière, c'est une équipe qui performe. Donc je pense
Anderson est capable de faire 50 rencontres, puis Anta 32. C'est ça mon problème aussi.
Sinon, on a Kochkov aussi du côté du troisième gardien qui avait bien fait l'année dernière avec les Hurricanes aussi quand il était venu en relève. C'est un jeune qui s'en vient aussi là, du côté des Kings. Donc non, je pense que du côté des Hurricanes, ça va être encore une autre bonne saison. Maintenant, est-ce que ce sera deuxième ou troisième? Rendu là, on verra bien, mais moi, je pense que c'est une équipe qui va falloir s'y rendre encore une fois la saison prochaine.
Sur moi, du côté des deux, j'ai mis Rangers, et donc ça me donne les mêmes, tous deux le même premier. Moi, les Rangers, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a cherché la diversité. Donc, Blake Wheeler, on a cherché Bonino, Pitlick, Gustafsson, avec Jonathan Quick puis Peter Laviolette. Faut pas oublier que Peter Laviolette a toujours fait des bonnes équipes dans ses premières années. C'est un coach qui est là pour 3 ans, mais c'est un coach qui est vraiment bon pour 3 ans. Et on a enlevé, selon moi...
Il y avait une date d'expiration.
Ouais, ça fait 3 années. Mais... Et ce que j'ai aimé du côté des Rangers, en fait, du côté de Chris Drury, c'est qu'on est vraiment... Tu sais, l'an passé, on a construit l'équipe avec des joueurs de talent beaucoup, beaucoup offensifs, qu'on pensait avec beaucoup de joueurs de talent et d'offensives, on s'est regardé aller loin. Et la chimie est un petit peu sur soi en fin de saison. Là, on se débarrasse de des gars comme Tarasenko, Patrick King, qui peut-être dans un vestiaire où ce que ton top 6 était déjà préétabli d'avance, ça fonctionnait avant. Puis là, on a vu que ça a arrêté de fonctionner après. Donc, je pense qu'on redevient ce qu'on était. Oublier d'Eli Fessoff, mettre la Lafrenière sur le premier trio à droite, moi, je crois pas à ça. Mais de toute façon, je pense que notre ligne droite est plus faible que notre ligne gauche dans les avants. Là, on a Kreider, Panarin, Goodrow, Vizy à gauche. Dans ce cas-là, droite, on a Lafrenière, Wheeler, Kako et Pitlick. On a encore une fois une bonne ligne centrale avec Zibanejad, Chitil, Trocheck puis Bonino. Puis on apporte un petit peu de death avec Bonino, qui est un gars qui est habitué de jouer. Défensivement, on est probablement une des meilleures dans l'Est sans problème. Et c'est durant du rôle de goaler encore. Est-ce que Sechterskin va pouvoir bien faire avec Jonathan Quick qui est capable de garder une vingtaine de rencontres, peut-être trentaine de rencontres? Je pense que Quick aura enfin cette année l'idée de pouvoir gagner la Coupe Stanley. Puis il l'a fait l'année passée aussi, de toute façon. Donc, tu sais, je pense que c'est bon du côté de Jonathan Quick de ce côté-là. Et moi, c'est pour ça que je les mets en avant. Je les mets en avant parce que je pense qu'on a plus de punch offensif que les Hurricanes, mais surtout qu'on a une meilleure stabilité défensive puis devant le but. Donc, je voyais mal pourquoi on passait devant des Hurricanes. Mais les Hurricanes ont l'habitude de nous faire mentir, puis c'est toujours la même chose. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là.
Ben, écoute, ça se défend, là. Je veux dire, moi, honnêtement, je regarde les Rangers puis les Hurricanes, puis c'est deux équipes qui ont pu facilement interchanger. Je vois pas une équipe qui est vraiment plus haute que l'autre, là. Moi, c'est juste une question peut-être de préférence, puis je mise beaucoup sur le retour de Svechnikov parce que c'est un des gros morceaux qui a pas joué de l'année l'année passée, puis ils ont quand même très bien fait sans lui, donc imagine avec lui. Mais, tu sais, les Rangers finiraient deuxième, je serais pas surpris non plus, là. Donc, c'est très défendable, là, de ce côté-là. Mais là où on s'entend, par contre, c'est le numéro un, les Devils. Au plaisir de Savanti. Je ne sais pas s'il est encore dans le chat, mais on a appris. L'année dernière, on les a mis très loin. Bon, hein? Là, cette année, on a appris et on les a mis premiers en espérant de ne pas les jinxer cette fois-ci. Écoute, du côté des Devils, ben, c'est pas compliqué. Là. On va avoir Timo Meier pour toute l'année, vu qu'il avait quand même très bien fait avec les Devils. On a ajouté Toffoli, qui est un vétéran toujours fiable. Sinon, ben, il y a des recrues aussi qui cognent à la porte, comme Alexander Holtz, ce qui peut faire son entrée cette année. Dawson Mercer, qui a été excellent la saison dernière. Eric Ola qui est capable de mettre des points sur le tableau aussi. On a André Palat avec comme troisième ligne, toujours en se fiant sur Daily Faceoff. Jack Hughes qui a explosé l'an dernier. Jesper Bratt qui est très bon aussi. Défensivement, j'ai hâte de voir à quel point la perte de Severson va faire mal. Est-ce que Simon Nemec va jouer dès cette année? Luke Hughes lui va faire son entrée dès cette année. La défensive, je l'aime un petit peu moins. Là. Je regarde, tu sais, Segan Taylor avec Hamilton comme première paire, Luke Hughes avec John Marino, Kevin Ball avec Colin Miller, ça manque.
De punch.
Ça manque de punch. Je veux dire. Puis là, c'est là que Simon Nemec, est-ce que ça va être cette année? Est-ce qu'on va le laisser encore une fois dans la Ligue américaine? On verra bien. Et devant le filet, bon, on mise sur Vanecek et Akira Schmid, qui a été une des révélations du côté des Devils là, la saison dernière. Mais je regarde l'offensive des Devils, puis. C'est trop à gérer pour les autres formations. Je pense qu'ils vont donner des cauchemars là, aux autres formations de leur division. Puis c'est pour cette raison-là que je déplace au premier rang de la division.
C'est une bonne idée. Puis écoute, ce que notre ami Tom Fitzgerald fait avec les Devils depuis, je te dirais, 3 ans est exceptionnel. On a perdu des morceaux quand même importants. Là. Severson, Sharon Govich, Miles Woods qui était là depuis longtemps, qui est un joueur établi là-bas. Ryan Graves, on a pas tantôt. Puis Thomas Tatar qui est parti. Mais on rajoute, comme tu dis, 4 joueurs, je pense, qui sont présentement prêts à aider, qui sont bons. Toffoli, Tourney avec Nozak puis Miller. Miller, ce ne sera peut-être pas ton meilleur défenseur, mais comme je dis, je pense que la diversité défensive va être quand même bien, mais cette équipe-là va être beaucoup plus souvent à l'attaque. Donc, c'est tous des joueurs qui adorent avoir la rondelle dans le top 9, même je dirais même top 12. Et on a des joueurs qui sont fatigants, comme Curtis Lazar qui vont y aller. McLeod est fatiguant aussi. Puis Nozak aussi peut être fatiguant, donc on a vraiment un top 12 qui est intéressant et on a encore plus d'expérience côté des Devils. On a appris l'année passée à gagner, on a goûté à la victoire. Et là, je pense qu'on va être encore plus cette année. Et moi, Jesper Bratt, l'année passée, m'a complètement... Écoute, je suis tombé en amour. C'est tellement un bon joueur. C'est tellement le fun d'aller voir. Et là, on avait racheté un vétéran comme Toffoli qui est capable de faire un 25-30 buts par année si tout va bien, avec 2 joueurs offensifs. T'sais, on l'a vu avec les Calgary, avec Montréal aussi. Donc, je pense que cette équipe-là est bien balancée. Tom Fitzgerald fait un excellent job de ce côté-là. Et notre bémol défensif va probablement se régler avec les goalers. T'sais, oui, Akira Smith, c'est peut-être pas... On ne sait pas ce qu'il va nous donner en saison régulière, mais a quand même été le numéro 1 pendant les séries l'année passée. Et Vitek Vanecek, que j'ai toujours dans mes poules, fait toujours bien quand même en saison régulière. C'est pas un gardien de but, peut-être pas dans le top 5, top 6, top 7 de la Ligue, mais c'est un gardien de but qui peut te donner quand même bien à longueur d'année. Puis souvent, quand il se perd en playoff, mais là, on a quelqu'un d'autre qui va l'aider. Donc, est-ce que Lindy Ruff, cette année, va être capable de se rendre aux grands honneurs? J'y souhaite. Mais moi, je pense que sans être l'équipe la plus sexy de l'Est, je pense que c'est l'équipe qui va être dure à battre dans l'Est parce que c'est une équipe qui travaille sans cesse. Et honnêtement, ça va être le fun d'avoir cette équipe-là cette année. Moi, je pense qu'ils vont vraiment donner du fil à tordre à tout le monde. Et si tout le monde peut rester en santé, comme tu dis, Timo Meier va être là toute la saison. Et tu sais, moi, je n'étais pas un grand fervent de Timo Meier avec les Sharks. Je trouvais qu'il était un peu tout seul et que c'était un peu pour ça qu'il faisait des points. Mais il m'a fait mentir l'année passée. Donc, ça va être le fun d'avoir du côté de Devils. Mais moi, je les ai cassés premier, moi aussi.
Écoute, on va. Je ne sais pas si tu as des pics de Savanti pas loin. On va aller les checker ensemble. Je ne sais pas si Savanti est encore dans le chat, mais sinon, au pire, tu goûteras ça en différé. Mais tu veux voir qu'est-ce que notre ami Savanti a mentionné
en lancement. En 8 Flyers, En 7, on a la les Islanders.
Oh, donc lui aussi, il va quand même les Islanders là, chuter.
Exactement. Après ça, il a mis des ou, par exemple. Je ne lui ai pas dit que c'était pas la fois faire ça, mais il l'a fait pareil. Là. C'est 5-6, c'était soit Washington-Columbus ou Columbus-Washington. Donc, c'est pas mal dans le même sens que nous autres. En 4, il a mis les Pingouins G-O-U-I-N et non Pingouins P-E-N-G-U-I-N.
On est au Québec, ça, français.
Ouais, c'est parfait, ça. C'est excellent. Et après ça, New York avec un beau vomissement de bouche. Les Hurricanes avec une face vraiment fâchée et of course mes Devils en premier. Donc on t'est là cette année parce que ça fait du sens.
Mais écoute, je pense que littéralement les mêmes pics que moi.
Ouais, littéralement. Je trouve ça vraiment. Tu comprends que vous voulez spicy up les choses.
Finalement, j'aurais peut-être dû mettre les Flyers premier rang finalement.
Non, c'est comme tu dis, je pense que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Cette division-là devrait être pas faible, mais je pense que les équipes d'en haut vont vraiment se lasser du lot rapidement. Et je pense que les 400 équipes du bas, on va les voir se détacher rapidement du côté de cette division-là. Puis dans l'Est, on l'a vu que la semaine passée, qu'est-ce qu'on a prédit. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec l'Atlantique, mais d'après moi, l'Atlantique est pas mal plus forte.
Écoute, pour closer le podcast, on va y aller avec quelques petites nouvelles, puis on va aller se diriger vers le Canadien, là, parce qu'il y a eu quand même quelques trucs là, qui s'est passé. Dont la retraite officielle là, de Paul Byron et,
ah oui, Paul.
Et du côté du Canadien, eh bien, on lui a gardé un siège là, au sein de l'organisation. Il va s'occuper, entre autres, du développement avec Marie-Philippe Poulin. Donc, c'est le Canadien qui est quand même entre de bonnes mains. La GOAT du côté du hockey féminin et Paul Byron qui est un exemple parfait de détermination. Et du côté du Canadien, ça commence à être un thème. Tu sais, quand on parle de culture, tu sais, tu as Martin Saint-Louis comme coach qui est parti de loin et qui s'est finalement faufilé jusqu'au Hall of Fame. Et on a Paul Byron, que ça a été un claim sur le ballottage et qui est devenu quand même une pièce importante du Canadien. Il a marqué un gros but en série lors de la série contre les Maple Leafs là, il y a 2 ans. Je ne me souviens plus c'est dans quel duel, là, mais c'était le but gagnant. Là, il restait peut-être 5-6 minutes à faire au match. Et un but, là, il avait tombé sur ses genoux. Puis ensuite, il a réussi à se relever un petit peu et lober la rondelle tout juste au-dessus de l'épaule de Campbell pour marquer ce fameux but-là. Probablement le but le plus important de sa carrière, mais à la base, c'est quand même un claim sur les waivers du côté du Canadien. Donc, ça a été peut-être un des meilleurs claims là, des dernières années, voire des dernières décennies. Je ne sais pas ce que tu penses du côté Paul Byron. Est-ce que le Canadien a bien fait de lui faire un...
Très bonne affaire. Puis écoute, je trouve ça le fun que Paul Byron reste avec l'organisation. Non seulement c'est un joueur déterminé, mais c'est un joueur de petite taille. Et toutes les personnes qui l'ont connu, quand il est arrivé au camp d'entraînement des Flames, avec ses 5 pieds 9, 133 livres, là, ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrives. Tu sais, tu as des profils de joueurs dans le national qui sont faits pour ça. Tu sais, on dit que les joueurs sont buildés pour être des joueurs nationaux. Quelqu'un qui est un petit peu outsider ne se rendra pas ce que les autres se rendent. Mais je pense que de ce côté-là, Paul Byron a défié les pronostics. Pourquoi? Parce que avec son cœur, son art de travail, puis avec son méthode de travail, ça a fonctionné. Puis effectivement, tu sais, maintenant, dans le Canadien, on a Francis Bouillon qui a fait ça aussi, dans le fond, qui a été choisi dernier. Finalement, fait de l'équipe dans le junior, puis fait des nationales après. Puis tu as fait longtemps avec national aussi. Paul Byron, même chose, un joueur que personne ne voulait voir, puis ça s'est fait. Donc, on a plusieurs personnes dans l'espace du Canadien qui sont comme ça. Puis pour régner une nouvelle culture, je pense que ça, c'est bon. C'est bon pour les Harvey Pinard. C'est bon pour les gars comme de 4e, 3e trio qui peuvent dire « Ah, mais si je lâche pas, ça peut marcher. » Donc, bonne décision du côté du Canadien de le laisser là. Puis je pense que les gens vont l'aimer là. Puis c'est un conseiller. Probablement va aller plus loin dans le Canadien après ou peut-être dans une autre organisation. Mais je pense que pour là, c'est très bon.
Sinon, aujourd'hui, c'était le fameux match là, qu'il y a à chaque année là, au camp là, des Rouges contre les Blancs. Évidemment, on ne parlera pas de la rencontre parce que c'est un match là, qui ne veut absolument rien dire. Mais la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est qu'après le match, on a procédé déjà à des coupures du côté du Canadien. On a retranché 4 joueurs. En fait, on a envoyé les gardiens Quentin Miller au rempart. On a envoyé Yann Spoonard, qui est avec les Winterhawks de Portland dans la Ligue de l'Ouest. On a également retranché Florian Jacquet, donc le frère de Harbour qui ne jouera pas de match pré-saison cette année, et Cédric Guindon. Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas retranché plus de joueurs parce que il y en a quand même quelques-uns qui, honnêtement, ça ne donne pas tant grand-chose de les faire jouer en match pré-saison. Et ça a été, je pense, le gros problème du côté du Canadien dans les dernières années. Premièrement, on invite trop de joueurs à aucun entraînement et on prend beaucoup de temps avant de retrancher. Je fais en sorte que même dans les derniers matchs hors concours, on n'a pratiquement même pas d'alignement complet. Puis moi, je ne sais pas si c'est ma mentalité qui ne fonctionne pas, ça se peut très bien, mais Moi, il faudrait au moins qu'il y ait un ou deux matchs avec ton line-up complet avant de débuter la saison. Et dans les dernières années, ça ne s'est pas fait. Puis j'espère que cette année, on va peut-être un petit peu apprendre de tout ça. Il y a d'autres joueurs, je pense qu'on aurait pu retrancher là, du côté du CH. Là, pour... Puis je sais qu'on veut donner des nananes à certains joueurs, au moins un match pré-saison et tout ça. Mais ce que j'aime beaucoup quand on retranche des joueurs comme ça, c'est que Guindon, on le sait que cette année, il n'allait pas faire le club de toute façon. Non. On sait que cette année, Florian Jacquet, il n'allait pas faire le club. Quentin Miller, c'est sûr qu'il ne faisait pas le club non plus cette année. Fait qu'on les envoie tout de suite dans leur équipe respective, peuvent débuter leur saison puis se concentrer vraiment uniquement là-dessus. La Q est déjà commencée en fin de semaine. Donc, les remparts ont dû jouer sans Miller dans les deux rencontres de la dernière fin de semaine. Mm-hmm. Puis ça ne s'est pas super bien passé. Donc, si on était là, ça aurait été moins pire. Jacquet, ben, du côté de la OHL, ce n'est pas encore commencé par contre. Là. Ça commence bientôt. Mais quand même, on envoie ces gars-là pour qu'ils puissent... commencer leur saison là-bas, poursuivre leur développement, puis on surveillera l'an prochain. Puis je pense qu'on aurait peut-être dû faire ça avec plus de joueurs. Évidemment, peut-être qu'il va y avoir d'autres coupures demain après le premier match pré-saison, mais je pense qu'on aurait peut-être pas retranché immédiatement. Là. Ouais,
je pense qu'on a voulu juste faire un petit peu tard et pas en mettre trop. Là. Florian Jacquet a fait quand même bien pendant ce qu'on a vu. C'est un joueur robuste, un joueur de grosse taille. S'est battu une fois aussi, contre l'équipe de Buffalo. Donc, c'est un gars qui va probablement dans la même tranche que son frère, mais un petit peu plus à l'attaque. Excusez. Donc, cette année, ça ne va pas à Hamilton parce que les Bulldogs sont rendus à Brentford maintenant. Donc, ça va avec les Bulldogs de Brentford. Et Cédric Guindon, mais on le savait aussi, va aller rejoindre Owen Sound, dans le fond, l'attaque de Owen Sound, donc dans la OHL. Donc, petite taille, quand même un bon camp aussi. Mais je te comprends, je pense que demain, ça va être probablement une dizaine, quinzaine de joueurs qui vont partir d'une shot. Là.
Salutations à Jacob là, qui est dans le chat actuellement. Demain, le Canadien qui va jouer son premier match pré-saison contre les Devils, et on peut déjà deviner qu'on va être en mesure de voir Tarkovsky, Joshua Roy, Logan Mayhew et David Renbacher.
Attendez, comment tu veux qu'on t'appelle? Comment tu veux qu'on t'appelle? Le gars, il avait l'air d'un zombie, man, dans un champ de vache. Ouais. What the fuck is that?
Mais j'ai tellement aimé ses réponses, par exemple.
Comme tu veux, je m'en calisse, man. What?
Ouais. Redbacker, ouais, si tu veux. Il dit OK, puis si pas ça, tu te présentes devant quelqu'un, puis tu dis David. Ben, David.
David. Tu peux le nommer, tu peux le nommer comment ça s'appelle, en allemand si tu veux, mais je le prononce pas en allemand. Renbacher, c'est bien correct. Non, il faut t'appeler Renbacher. Ben, rappelle-moi Renbacher d'abord. Hey, man, est-ce qu'on est à temps? Oh, je suis plus capable.
Mais moi, j'ai tellement aimé ses réponses, par exemple. Tu vois, il était comme, ben, on va décrocher.
Une question stupide.
Ça a donné un beau moment. Un moment malaisant, mais un beau moment. Mais sinon, tout ça pour dire que c'est quand même le fun que demain, dans le match contre les Devils, on va voir là, du gros talent déjà. Tu sais, on sait que Joshua Roy a connu un très bon camp jusqu'à maintenant avec le Canadien. Du côté de Rainbacker ou Rainbacher ou peu importe, là, appelez ça comme vous voulez.
Lui, là.
Celui-là. Le fameux joueur qui a été repêché 5e au total à la place d'un certain Michkov. On reviendra pas là-dessus. Mais sinon, bon, évidemment, Logan Mayhew, ça a été un petit peu en deux temps. Là, du côté du tournoi des recrues, ça avait été difficile le premier match, mais plus que le camp avançait, plus il semblait prendre ses aises. Un très bon tir. Il a démontré dans les matchs intra-équipe durant les entraînements qu'il était capable de la décocher de la bleue son
lancer. Yes.
Très hâte de voir. Demain, on devrait voir également Simon Nemec, donc les Slovaques seront à l'honneur demain. J'ose croire qu'il va y avoir une vague de coupures par la suite. Là. Je pense qu'évidemment, il y a certains joueurs qu'on veut leur donner un petit nanane, mais je pense que, encore une fois, comme j'ai mentionné tantôt, je pense qu'il faut se garder l'alignement complet pour au moins les deux derniers matchs, là, si on veut avoir un petit peu de répétition avec le vrai line-up. Sinon, il y a d'autres matchs aussi cette semaine pour le Canadien. Ce n'est pas uniquement les Devils. Regardez ça, je n'ai pas pensé d'ouvrir l'application. Mais on a les Devils demain. Ensuite, on a les Sénateurs mercredi et les Maple Leafs vendredi.
Mm-hmm.
Donc, trois matchs, puis probablement que samedi, le Canada doit être en action aussi, j'imagine. En fait, on a deux fois les Leafs. Samedi et dimanche, je crois. Non, t'as vu. Vendredi, on a les Leafs. Et samedi, on a les Leafs aussi. Donc, deux fois Toronto pour la première semaine des matchs pré-saison. Très hâte de voir comment que les joueurs vont se comporter parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de place cette année à l'attaque, mais il y a des joueurs qui cognent à la porte solide. Comme je mentionnais tantôt, Roy, c'en est un. Emil Heinemann, c'en est un autre.
Ouais.
Est-ce que moi, si je m'appelle Joel Armia, est-ce que je commence à être stressé un petit peu?
On va pas l'air stressé en titre d'abordage, en tout cas. Quelle fin de merde. Mais bon.
Que veux-tu?
Les petits shot-out rapides, j'aime bien aussi le camp d'entraînement de Jared Davidson.
Oui, il a connu un gros match aussi.
Il y a deux gros matchs, en fait, aujourd'hui, puis le premier match en intra aussi. Donc, tu sais, je reçois beaucoup Anthony Marcotte au niveau de X, l'anciennement Twitter. Donc, je pense qu'on va peut-être essayer de faire une place au niveau du Rocket avec Jared Davidson. Vraiment un bon camp d'entraînement. Puis c'est le fun de voir un gars qui est un peu un outsider qu'on pensait pas arriver. Donc, c'est quelque chose d'intéressant que j'aime voir dans ce camp d'entraînement. Et l'autre chose, quel but de Logan Cooley?
Oh, mon Dieu! Wow! Si on parle quel beaucoup but. De Bédard, on parle beaucoup de Fantelli, mais Cooley peut être dans les discussions pour le Calder. C'est sûr que quand tu as un Connor Bédard qui est là, ça va être peut-être un petit peu dur, mais je pense que Cooley peut être facilement dans les finalistes là, cette année. Là.
Ça va être toute une saison au niveau des recrues cette année, puis on va suivre ça. C'est sûr qu'on a des favoris, je pense, puis le favori de la foule est connu, mais je pense que c'est un gars qu'on peut voir en Arizona qui va bien faire. Et je voulais souligner juste une petite affaire. Entre podcasts au Québec, c'est toujours pas facile. On a des bons podcasts qui vont commencer cette semaine, puis dans d'autres places aussi. Puis je voulais juste dire un bravo à toutsurlehockey.com. 15 ans aujourd'hui qui sont là. Oui. Puis honnêtement, là, pour Max Neffet, il y a eu des sites web, puis moi j'ai eu un site web, puis on a essayé, puis on essaie toujours, puis avec la gang de sources du hockey, c'est pas facile. Mais je vous le dis tout de suite, ces gens-là travaillent fort. Les gars que vous regardez à la télé présentement regardent fort, puis notre boss aussi regarde fort. On travaille fort pour vous divertir, mais surtout vous informer. Puis 15 ans dans un blog, c'est dur à avoir. Puis félicitations à tous sur le hockey. Donc, je viens que le proposer rapidement. Je ne fais pas publicité pour les autres romans, mais ça, il fallait que je le dise. Et pour finir, triste nouvelle pour Nick Curdiles, qui est décédé d'un accident de motocyclette cette semaine. En fait, je pense que c'est hier. Donc, l'ancien numéro 17 du Moose de Manitoba qui a succombé à ses blessures. Donc, c'est pas un joueur électrisant, mais c'est quand même un joueur qui a joué dans les... pour les Américains dans le U17, U18 puis U20.
Ben même qu'à un certain moment, il était, là, on recule de plusieurs années, là, mais il était considéré comme un des bons espoirs là, du côté des Ducks d'Anaheim.
Ouais.
Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas concrétisé par la suite, mais il avait quand même eu là, une très belle saison, là, entre autres avec Wisconsin, la dernière année de la NCAA, 38 points en 28 matchs. Il a eu des saisons, là, des bonnes saisons dans la AHL aussi, mais n'a jamais été en mesure là, de transposer ça dans la LNH, mais peu importe le calibre du joueur, peu importe si c'est une superstar ou pas, c'est des choses qu'on veut pas voir malheureusement, et ça s'est produit hier là, du côté de Nick Curdall, mais bon, on va souhaiter que ça se produise pas trop souvent ce genre d'événement.
Ouais.
Puis sinon, l'autre nouvelle, il y a toi que je voulais rebondir aussi, ce que tu as pour tout sur le hockey, pour vrai, il n'y a pas beaucoup de blogs francophones qui spécialisent dans les espoirs. Si vous voulez vraiment des inputs là, sur les espoirs repêchés ou les espoirs qui vont être repêchés au prochain repêchage, c'est vraiment un blog à suivre pour vrai. Là, ils font vraiment du bon travail. Puis, comme tu as mentionné, 15 ans à faire ça. Puis, tu sais, probablement qu'il n'y a personne là-dedans qui gagne leur vie là, avec ça. Peut-être qu'ils font une coupe de piastres à gauche et à droite, mais c'est pas malheureusement, c'est une industrie qui est très dure à percer, surtout quand tu ne veux pas tomber dans le moule des clickbait. Mais malheureusement, c'est rendu ça, les gens aujourd'hui, on veut tout avoir rapidement, puis on préfère se faire leurrer par un titre accrocheur que de prendre le temps de lire des textes plus élaborés. Mais ça, rendu là, c'est un autre débat qu'on peut avoir là-dessus, mais d'être capable de toffer pendant 15 ans, puis de garder cette passion-là par 15 ans, même si on ne réussit pas nécessairement à gagner notre vie avec ça, puis que ça gruge beaucoup de temps, ben chapeau aux gens de tout sur le hockey, là, de réussir à garder le cap même après 15 ans.
Yes!
Écoute, Steph, je pense que c'est ce qui conclut le pod. À moins que tu voulais avoir d'autres. À moins que tu avais d'autres nouvelles ou mais je pense
pas d'autres nouvelles. Non, pas d'autres nouvelles. On va regarder ce qui va se passer dans la prochaine semaine. De plus en plus, on va avoir des nouvelles. Les podcasts. On a fait un bon podcast une passée, là, je pense que c'est en bas d'une heure, mais la division métropolitaine n'était pas si alléchante. Mais je pense que les deux prochaines divisions vont être le fun. Et les nouvelles vont commencer à se faire avec le Canadiens canadien et avec le Canadiens des autres équipes. Et on va commencer à suivre ça. Donc, j'ai bien hâte de vous revoir la semaine prochaine.
Bon, là, la grosse question qui tue, Steph, la semaine prochaine, Pacifique ou Central?
Tout choisi.
Oh non, tu peux pas utiliser ton miroir pour retourner la question. Écoute, je vais y penser. On a quand même quelques questions dans le chat. Là, on va y répondre en attendant que j'y réfléchisse. On a Peter Saint-André-Benoît qui mentionne, les gars, vous pensez quoi du trophée?
On n'aurait pas parlé.
Ouais. Ben écoute, je pense que c'est un bel honneur pour Patrick Roy. Il a tellement eu un impact dans la LHJMQ dans les dernières années, voire les dernières décennies. Je pense que c'est une belle fleur qu'on lui fait. Écoute, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Je pense que on connaît tous le personnage, l'impact que Roy a eu. Donc, c'est un bel hommage pour lui. Tant mieux si on lui donne un trophée là, à son nom là, pour les prochaines années dans la CIM.
Et c'est surtout mérité, non seulement au niveau des entraîneurs, mais au niveau des gardiens de but. On sait que Patrick était probablement le plus... un des plus grands, ou sinon le plus grand selon certains. Mais je pense qu'on fait bien de faire ça. C'est une longue carrière au niveau du jeu, au niveau du coaching du côté de Patrick. Et je pense que c'est juste bien à donner. C'est de finir bien les choses présentement. Et ça va garder Patrick un petit peu avec la LHJMQ, même s'il va passer ses années probablement en Europe dans les prochaines années, mais ou en Floride. Mais quand même, c'est une belle admission. Là. Je pense que c'est un beau don d'honneur. Puis on pourrait dire en même temps, la numéro 22 d'Aiden McKinnon aussi, oui. Avec le Mousses d'Halifax qui a été retiré, je pense, avant-hier, samedi. Ouais,
c'est au match ouverture des Mousses. Match ouverture. Ils ont fait la date à leur match, mais quand même, l'honneur était quand même le fun.
L'honneur était là, et puis c'est le fun de voir, écoute, les Mousses qui vont avoir un très bon joueur, qui ont eu un très bon joueur, Nathan McKinnon. Et on va voir cette année si ça va coller avec son acolyte dans les mêmes années.
On verra bien. Puis d'ailleurs, tant qu'à parler un peu de la LHJMQ, écoute, on va parler un peu de ton boy natif de Valleyfield, Justin Poirier, qui a connu une première fin de semaine dans la Q. Ça a commencé contre les Sags. Il y a eu une passe là, sur le but gagnant en prolongation. Et dès le lendemain, au centre Vidéotron, a récolté un tour de chapeau. Une année assez cruciale là, pour Justin Poirier. D'ailleurs, j'ai fait un texte là-dessus sur la source du hockey. Mais évidemment, c'est son année de draft. Et lorsqu'on regarde les listes, malheureusement, pas beaucoup de gars de la Q qui figurent parmi la première ronde. On parle beaucoup de Maxime Massé du côté des Sags aussi, qui est un très bon espoir. Mais Justin Poirier, il faut le garder à l'œil aussi. Je pense que c'est un joueur qui pourrait grimper les échelons là, tout au long de la saison. Présentement, il n'est pas classé là, dans les peu de listes qui ont sorti. Lorsqu'on regarde, là, il n'est pas classé nécessairement en première ronde, mais c'est un gars qui pourrait s'y faufiler s'il connaît une bonne saison. Il a eu un bon tournoi aussi, Ivan Linka, là, durant cet été, avec Maxime Massé aussi. Avec la formation canadienne. Les deux ont été très bons avec cette équipe-là. La seule chose qui est plate un peu avec la LHJMQ, c'est qu'on est très conservateur pour le tournoi des U18 qui a lieu durant, malheureusement, les séries éliminatoires. La OHL et la WHL, eux, n'hésitent pas à envoyer leurs joueurs à ce tournoi-là, mais la Q, on préfère garder nos joueurs pour nos propres séries éliminatoires, ce qui est comprenable, mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait juste faire le tournoi à un autre moment? Pourquoi faire un tournoi en plein milieu des playoffs au niveau junior? Ça, j'ai jamais compris cette affaire-là. Mais bref, ça serait cool de voir ces joueurs-là jouer contre les meilleurs au monde de leur âge, à place de jouer, peut-être pas dans le cas de Massé et de Poirier qui ont des gros rôles, mais il y en a certains qui vont jouer sur une 3 en série, pas beaucoup, alors qu'ils pourraient jouer là. Alors qu'il pourrait jouer dans des plus gros rôles justement avec la formation canadienne. Mais bref, là, je dérape un peu, mais tout ça pour dire que du côté de Poirier, là, ça sera un gars à surveiller tout au long de la saison. Et je ne vous mentirais pas que je vais peut-être essayer d'envoyer un petit courriel au Drakkar, voir si on pourrait l'avoir peut-être en entrevue en podcast. Ça serait plaisant d'avoir des joueurs là, cette année. Sinon, Savanti qui veut qu'on fasse la division centrale dans le chat pour la semaine prochaine. Donc, Savanti...
C'est ça, mon chat. Centrale, ça va.
Et Peter qui pose aussi une question, puis c'est vrai qu'on a passé à côté parce que c'était le repêchage lundi, mais qu'est-ce qu'on pense de la Ligue féminine? Pensez-vous que l'équipe de Montréal va avoir un bon calibre? Ouais. Ben écoute, c'est sûr que quand tu startes avec Marie-Philippe Poulin et Anne-Renée Desbiens, qui est la meilleure gardienne au monde et la meilleure attaquante au monde, une des meilleures, sinon, si on veut débattre un peu, c'est un très beau, c'est un très bon départ. Puis en plus, on amène Erin Ambrose qui a joué avec Marie-Philippe Poulin et les Canadiennes de Montréal il y a quelques années, qui est une très bonne joueuse aussi. Mais écoute, je pense que toutes les équipes ont des bonnes équipes.
Exactement.
Parce que, évidemment, il y a juste 6 équipes. Donc, le talent n'est pas très dilué. Donc, chaque équipe a vraiment des très bonnes joueuses. Moi, la seule chose que j'espère, c'est que les personnes vont se déplacer pour aller voir les matchs. C'est sûr que s'il n'y a personne qui va voir les joueuses jouer, ça va mettre des bâtons dans les roues, évidemment, là, peut-être à la survie de la Ligue. Peut-être pas directement, mais je veux dire... Tu sais, aller encourager ce talent-là. C'est peut-être pas le même type de hockey que le hockey masculin, mais il y a quand même des très bonnes joueuses. Et je pense que oui, Montréal va avoir une belle équipe là, cette année. En partant, comme j'ai mentionné, Katamari Fulpin et Anne-Renée Desbiens comme point de départ, c'est dur de tromper.
Mais comme tu dis, moi, je pense que le fait que tu vas avoir 6 équipes, les six bonnes équipes, parce que dans le fond, c'est une première fois pour les filles. Je pense qu'on va avoir six grosses équipes. Et oui, moi, je pense que ça va être une équipe qui va être le fun à regarder jouer. C'est du beau talent, guys. Puis c'est du beau talent, autant québécois que canadien. On sait que la cote canadienne descend d'année en année, autant dans les gars que les filles. Il y a de plus en plus d'Américaines, plus de reste du monde qui viennent. Donc, c'est le temps d'encourager notre terrain local. Et je pense que ça va faire du bien. Ça va être le fun d'avoir ça. Puis honnêtement, moi, je vais y aller cette année. Je vais me prendre les billets avec mes petits bouts, puis on va aller voir ça.
Puis je me posais la question, justement, on avait parlé dans le dernier podcast, voir si ça allait être seulement des joueuses canadiennes et américaines. Puis non, on en a vraiment pigé là, en Europe. Là,
Finlande,
Suédois, la Tchéquie. Donc, c'est vraiment mondial, si on veut, comme ligue. Donc, ça va vraiment attirer les meilleures joueuses là, partout sur le globe terrestre. Donc, ça va être intéressant à suivre. Et j'espère qu'il va y avoir des façons de regarder les matchs parce qu'évidemment, moi, en étant en Beauce, aller à Montréal à chaque rencontre, ça va peut-être être un petit peu plus tannant. Mais si on peut avoir soit un deal sur une plateforme de stream ou à la limite un deal télé, que ce soit TVA Sport qui présente ça, ou parce que je pense que TVA Sport a présenté des matchs de la force aussi dans les passés. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Là, j'espère qu'il va y avoir peut-être un deal là, qu'on pourra regarder ça et suivre ça de près.
C'est sûr que les télévisions vont, en tout cas, j'espère que les télévisions vont se lancer là-dessus parce que, évidemment, c'est nouveau. Puis je pense qu'il faut aider ces équipes-là et cette équipe-là à faire mieux. Donc, moi, je pense que l'important, ça va fonctionner.
Sinon, Peter qui enchaîne en mentionnant si le fait que l'entraîneuse ne parle pas le français, est-ce que c'est dramatique? On a discuté de ça dans le dernier podcast, puis je me suis d'ailleurs fâché, semblant fâché. Fait que, au pire, si vous regardez les dernières minutes du dernier podcast sur notre chaîne YouTube, OK sur demande d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Mais pour faire une réponse rapide, moi, je m'en fous un peu. Moi, je pense que l'important, c'est d'avoir une coach qui veut gagner, qui est là pour faire gagner l'équipe, qu'elle parle français ou pas, rendu là. Je pense qu'avec les Marie-Philippe Poulin et les Anne-Renée Desbiens, qui sont les têtes d'affiche de cette équipe-là, je pense que c'est ça qui est plus important, qu'on ait, oui, des joueuses québécoises, puis en plus, c'est les joueuses sur lesquelles tu bâtis ton club. Fait que rendu là, l'entraîneuse, regarde, elle a dit qu'elle essaie de l'apprendre le français. Puis honnêtement, quand elle n'en parle pas un mot, je m'en fous. Je pense pas qu'il faut tomber dans le même piège que du côté du Canadien puis choisir le meilleur coach qui parle français au lieu du meilleur coach tout court. Et de toute façon, je pense pas qu'il y avait beaucoup de candidats non plus. Fait que tu sais, c'est, je veux dire, pour débuter, qu'on commence avec la meilleure coach possible qui juge que c'est la meilleure coach possible, évidemment, parce que les goûts, c'est relatif. Puis plus que ça va avancer, plus qu'il va s'en développer des coachs. Puis à un moment donné, lorsqu'on aura besoin d'un changement, ben là, on commencera à explorer les options francophones. Mais pour l'instant, je pense que c'est important d'implanter une culture déjà gagnante avec cette équipe-là. Puis on va chercher la meilleure coach disponible, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit allemande, qu'elle soit française, qu'elle soit québécoise. Pour moi, je m'en...
Puis honnêtement, je pense que c'est à vous autres, les femmes, de vous lancer dans le sport. T'sais, le sport d'équipe féminin de hockey a toujours été perçu un petit peu de travers, autant par la gente féminine que la gente masculine. Mais moi, je pense que les gars, on est quand même assez popés pour les aider. Mais c'est à vous, mesdames, de vous lancer. Là. De plus en plus, il y a des hockey féminines. Tu sais, moi, je le vois ici, le Collège Bourget à Rigaud avec Mélodie Daou, qui a son programme master dans le prep school pour les femmes. Je le vois aussi avec les Storm. Nous, on a une équipe avec toutes les associations alentour pour les filles. Donc, on promote les filles jusqu'à 2A maintenant dans la tombe. Donc, c'est à vous, mesdames, de promoter le hockey féminin. Tu sais, je l'ai toujours dit, puis je pense dans plusieurs talk shows, elle l'entendrait, le monde en rit, mais si toutes les femmes qui écoutent Audrey allaient voir une game de hockey, là, ils seraient riches, là, ils feraient plus d'argent que nous autres. Là. Donc, tu sais, c'est à vous aussi de donner un petit peu à ce que les filles demandent, de l'espoir. Puis honnêtement, moi, je pense que c'est quelque chose que l'hockey féminin a besoin d'avoir, et rapidement.
Non, puis je trouve ça dommage parce que tu dis ça sur les réseaux sociaux. Puis encore là, on a. Puis là, je nommerai pas la personne, là, parce que évidemment, je pense pas qu'elle mérite qu'on lui mette le spotlight dessus. Non. Mais tu sais, à la source du hockey, on essaie de faire des textes aussi sur le hockey féminin. Puis on en a fait une coupe. Puis tu sais, des je m'en calisse, j'en ai vu une coupe de fouet là, dans les commentaires. Puis c'est dommage parce que tu sais, les filles ont tant le droit d'avoir une ligue first, puis d'avoir de l'exposure aussi sur leur sport. Puis c'est sûr que si on répond tout à coup de « je m'en calisse » à chaque fois, ben ça ne progressera pas. Là. Puis c'est encore là, je le dis, c'est pas le même type de hockey. Est-ce que ça se bat? Non. Puis on s'en fout. Je veux dire, c'est pas ça qui est important. Est-ce que c'est moins rapide un peu? Peut-être. Mais je veux dire, il y a quand même d'autres skills aussi qui compensent. Puis il y a des beaux jeux qui se font aussi. Là. On était tous, là, toute une gang d'hypocrites là, qui capotaient là, quand le Canada était en finale des Jeux olympiques puis que Marie-Philippe Poulin a marqué son Golden Goal. On était tous devant la TV. Puis, ah, c'est donc bien le fun, ils ont gagné la médaille d'or. Mm-hmm. Le lendemain, là, on se torche du hockey féminin. Tu sais, je veux dire, il faut qu'on arrête de soi hypocrite par rapport à ça, puis qu'on encourage. Puis, tu sais, je ne demande pas nécessairement d'aller à tous les matchs, puis de dépenser ta paye au complet dans un match là, de hockey féminin. C'est pas ça le point. Mais, tu sais, un vendredi soir, un samedi soir, tu n'as pas grand-chose à faire, tu n'habites pas loin. Vas-y. Va voir c'est quoi le produit. Puis, regarde, si tu n'aimes pas ça, ben, tu les encourageras autrement, mais au moins prends la peine d'aller voir le produit avant de dire des je m'en calisse. Puis, déjà, je m'excuse du langage, mais c'est carrément ça. Là.
Exactement. Non, je suis d'accord. Puis, il faut arrêter de faire l'hypocrite. Puis, de se cacher la tête. C'est une bonne réflexion à avoir.
Donc, Steph, grâce à ces commentaires additionnels, on a réussi à franchir la une heure. Donc, on n'est pas trop dépaysé. Donc, juste avant, le commentaire de Peter est très bon. Mentionnait, ouais, on dirait que vu qu'ils sont pas en bikini, ça intéresse pas comme le football féminin, la fameuse la lingerie, la ligue lingerie.
Aïe, aïe.
Tu sais, c'est ça le problème, c'est que c'est moins sexy de jouer de hockey, mais tu sais, je veux dire, si tu veux voir, là, ça va sonner cru mon affaire, là. Si tu veux payer 15-20$ pour aller voir des parties plus précises, il y a d'autres établissements pour ça que vous pouvez aller. Moi, quand je vais payer mon 15-20$, c'est pour voir du hockey. Fait que, tu sais, rendu là. Puis il y a des très belles joueuses, honnêtement. Je veux dire, c'est pas. On a tout le cliché là, de la joueuse de hockey qui ressemble à un gars, mais c'est pas ça pantoute. Là. Faites le tour, puis il y en a des joueuses charismatiques, là, puis. Je veux dire, forcez-vous un peu. Je veux dire, allez, prenez votre 15-20$, allez voir
si vous voulez. Faut pas me dire qu'un gars est beau, qu'il a un casse avec les dents pétées et un mouthpiece qui mange sur le bord de la bouche, quand même. Là. Donc, si vous trouvez que Mathieu Tkachuk est beau sur la glace ou que n'importe qui d'autre est beau sur la glace, tu sais, l'homme le plus beau au hockey était pendant longtemps Henrik Lundqvist, puis il y a 40 plates de carton d'en face là, à chaque game. Là. Donc, pas me dire que vous le trouvez beau sur la glace. Là. Vous les trouverez beaux après sur le site web si vous voulez, là, puis on a en masse de podcasts qui vont s'amuser, on dira pas les noms, à envoyer des photos de les blondes, puis des chums, puis des ci, puis des ça. Il y en a qui font leur argent avec ça. Là. Mais ceux qui veulent voir du contenu, cette carte, y aller en masse. Puis honnêtement, ça va être du bon contenu, ça va être du beau calibre. Puis moi, je pense que c'est juste bon pour le futur. Il faut arrêter. Il faut aller aux autres niveaux des autres. Si le hockey veut augmenter en popularité, il faut faire ce comme la NBA fait. Il faut faire comme les autres ligues font, qui ont des ligues féminines qui ont du sens. Et moi, je pense que le hockey mérite. Et je pense que le hockey devrait aller dans cette direction-là pour aider.
Yes, donc Steph, on se laisse là-dessus. Semaine prochaine, division centrale qu'on va analyser. Là, je pense que c'est là que le fun va commencer parce que c'est là que nos classements risquent de différer un petit peu plus. Évidemment, je vais aller avec mon pitch de vendeur de chars usagés habituel. Suivez-nous sur nos différentes plateformes. Allez sur la chaîne YouTube avec... allez voir Hockey sur demande sur YouTube. Allez vous abonner si ce n'est pas fait. Évidemment, suivez nos articles sur la source du hockey. Si vous appréciez notre podcast, allez faire un petit tour sur Apple Podcast, nous mettre un petit 5 étoiles, ça serait grandement apprécié. On est sur Spotify aussi, donc si vous préférez Spotify, on est là également. Et sinon, s'il y a des amis qui vous disent « Hey, connais-tu un petit podcast de hockey, écoutez, puis qui est le fun? »
Pensez à nous autres.
Pensez à nous autres. Écoute, je sais qu'on a tout à nos réguliers qui sont là, 70 Explore qui sont là à chaque semaine, mais si on aimerait ça grossir aussi la communauté un petit peu, ça serait plaisant. Donc, et malheureusement, on est obligé de vous remettre ça entre les mains parce que c'est souvent le bouche-à-oreille qui est efficace à ce niveau-là. Et sinon, ben, ceux qui nous regardent, là, même si vous ne commentez pas dans le chat, mais que vous nous écoutez pareil, que ce soit en live ou en différé, ben, on vous dit un gros merci et on se retrouve la semaine prochaine là, pour les prédictions de la division Atlantique.
En attendant, un shout-out aussi, on l'a posté avant la saison des podcasts, mais si vous voulez aider au niveau monétairement ou au niveau d'aider à ce que notre univers soit encore plus parfait, il y a des commandites qui peuvent se faire. Donc, allez écrire en privé.
Vous commencez notre podcast. On allez, a ton info. Donc, juste ça, écrire en privé. Et on va vous envoyer les détails de tout ça. Nous, évidemment, ça va nous aider grandement. Sinon, votre écoute aussi, là, c'est très apprécié, évidemment.
Donc, si vous voulez plus, il y a des possibilités.
Effectivement. Donc, Steph, on se dit à la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu vas écouter OD en reprise ou quels sont tes plans.
Ouais, face, je vais aller me coucher. Non, c'est pas vrai. Non, on va aller relaxer un petit peu, puis on va aller se préparer à faire le dos.
Yes, donc bonne semaine à vous tous. On se revoit en fait là, dimanche, même heure, même poste, pour une autre édition du podcast de Hockey sur demande. Lâchez pas, la saison arrive à grands pas, les amis.
Bye-bye.